VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Nouveau gouvernement depuis hier au Burkina Faso. La nouvelle équipe comprend 32 ministres avec l'entrée de 5 nouvelles personnalités contre 30 dans l'équipe précédente nommée en janvier 2016 par le président Roch Kabore. Les ministères clés, affaires étrangères, justice, économie et finances demeurent inchangés. Le président burkinabé a par ailleurs cédé le poste de ministre de la Défense. Le domaine de la sécurité fait également l'objet d'un ministère dédié, alors que le Burkina Faso a subi depuis 2015 diverses attaques djihadistes. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que doit s'ouvrir, après deux reports, le procès du meurtre de 4 hommes, dont 2 Français, enlevés en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan. C'était au plus fort de la crise post-électorale. Ce procès devrait aider à lever les zones d'ombre planant sur cette affaire. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Doboblé, qui commandait à l'époque la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. En République démocratique du Congo, le gouvernement a refusé net hier d'enquêter, comme l'ont demandé à Washington, Paris et l'ONU, sur une vidéo mettant en cause son armée dans un possible massacre. Kinshasa continue de qualifier la vidéo de montage grossier destiné à nuire à la RDC. Jacques Aristide.
Deux autres vidéos, pas plus authentifiables que la première, ont été relayées par les réseaux sociaux. Elles montrent ce qui pourrait être des scènes de la brutalité ordinaire que dénonce l'ONU dans la répression de la rébellion Kamuina Nsapu au Kasaï. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a demandé hier soir à enquêter sur ce qui apparaît, dit-il, comme un usage excessif et disproportionné de la force et à mettre un terme aux violations massive des droits humains dans cette région. La France a également exhorté les autorités congolaises à faire la lumière sur ce qu'elle appelle d'agissements inacceptables et à identifier et punir les responsables. Dès dimanche, le département d'État américain avait appelé Kinshasa à lancer une enquête immédiate et complète sur ces images. Le gouvernement congolais a réagi dans un communiqué officiel, opposant une fin de non-recevoir à ces demandes. S'estimant visé régulièrement par des rumeurs malveillantes, Kinshasa argue que face à des images d'amateurs anonymes, il ne lui revient pas de prouver l'innocence des forces armées du pays et d'ajouter qu'il appartient plutôt aux accusateurs, jusque-là inconnus, de prouver ces faits afin que tous les éléments incriminés en répondent conformément à la loi.
Au Cameroun, on est toujours en quête de solutions dans la crise qui secoue les régions anglophones du pays sous l'égide de l'ancien premier ministre Simon Achidi Achou. Les parlementaires du RDPC, le parti au pouvoir, se sont réunis à Bamenda ce week-end pour demander à l'État de libérer les détenus et d'accélérer la décentralisation. Ces derniers jours, de nombreuses personnes ont été arrêtés, même si certains ont été libérés. Beaucoup de Camerounais ne comprennent toujours pas le pourquoi de ces arrestations. Pour en discuter, John Lydon a joint à Yaoundé Christophe Bobiokono. Il est membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés au Cameroun.
Disons que la crise qui est née de la grève des avocats, premièrement, et puis des enseignants, ensuite, a dégénéré vers une opération de désobéissance totale. Voilà, mais dans le cadre de cette grève-là, il y a quand même des manifestations relativement violentes qui ont donné le prétexte à quelques arrestations. Ce qu'on constate depuis le 21 novembre, c'est qu'il y a eu de nombreuses interpellations, voilà, des personnes qui sont suspectées d'avoir posé des actes de terrorisme. Certaines personnes sont interpellées à Bamenda, dans le nord-ouest de manière générale, dans le sud-ouest, mais aussi à Douala et dans l'ouest du pays. Et pour la plupart d'entre elles, acheminées à Yaoundé, où elles sont soumises à des interrogatoires avant d'être présentées devant le tribunal militaire.
Le Comité national des droits de l'homme et des libertés dont vous êtes membre a récemment commis un rapport sur la violation des droits de l'homme dans ces régions anglophones du Cameroun. Comment est-ce que le gouvernement a réagi à sa publication?
Disons que nous n'avons pas encore eu de réaction officielle. Le comité a organisé des descentes aussi bien dans le sud-ouest que dans le nord-ouest du Cameroun, où il y a eu quand même un certain nombre d'actes de vandalisme sur des biens publics, mais aussi des interpellations nombreuses, massives et souvent des actes de torture sur des populations, des incarcérations aussi, jusqu'aux incarcérations de mineurs, le recours que la commission juge abusif des détentions administratives. Voilà. Donc la commission est allée sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passait exactement. Et la commission a fait un certain nombre de recommandations et de propositions au gouvernement et aux autres parties prenantes pour une sortie de crise.
Alors, vous parlez des crises. Où en sont justement les négociations entre les différents acteurs de cette crise anglophone, à votre avis?
Bon, disons qu'à partir du moment où le gouvernement avait décidé de dissoudre un consortium d'associations qui était l'interlocuteur organisé des associations de la société civile et l'interpellation des deux principaux dirigeants de ce consortium-là, le gouvernement s'est retrouvé sans interlocuteur valable. Puisque ceux qui aujourd'hui discutent au nom des enseignants n'ont pas la légitimité pour parler, et puis les populations ont décidé de se mêler véritablement à ce qui se passe, elles ont décidé de retenir leurs enfants à la maison. Et la commission a appris aussi bien dans le sud-ouest que dans le nord-ouest. Et l'une des conditions posées par les populations, c'est de dire qu'il faudrait d'abord que les leaders du consortium, dont le président et le secrétaire général qui sont interpellés, soient libérés, et qu'il y ait un vrai dialogue entre ces leaders-là et le gouvernement. Et seuls ces leaders-là seraient capables de lever efficacement les mots d'ordre de grève des obéissances civiles qu'on vit dans la partie anglophone.
Christophe Bobiokono, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, plus vieux dirigeant en exercice dans le monde, célèbre aujourd'hui ses 93 ans avec la ferme intention de continuer à régner sans partage sur le pays malgré des signes extérieurs de vieillesse de plus en plus évidents. Comme c'est le cas depuis des années, le doyen Mugabe doit souffler sa presque centaine de bougies lors d'une cérémonie limitée à ses ministres et aux plus proches collaborateurs. Ses concitoyens ont quand même été invités à lui faire parvenir leurs vœux via les réseaux sociaux des médias d'État. Près de 1,4 million d'enfants risquent de mourir de la famine cette année au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Le désastre va aller en empirant, les agences d'aide étant dans l'impossibilité d'atteindre les victimes, souligne l'UNICEF. Le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake, a appelé à agir vite.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Washington, 6h07, des négociations intersyriennes pour faire cesser le bain de sang qui dure depuis 6 ans reprennent jeudi à Genève, sans grand espoir d'avancer vu la poursuite de la violence, le fossé immense entre belligérants et l'incertitude sur les intentions américaines. Il s'agit des premiers pourparlers depuis les dernières tentatives de régler le conflit entre janvier et avril 2016 à Genève, qui s'était soldé par un échec. Les nouveaux pourparlers s'ouvrent cependant dans un contexte sur le terrain radicalement différent par rapport à avril 2016. Le régime appuyé par ses alliés russes et iraniens a repris Alep, l'emblématique fief de l'insurrection dans le nord, et celle-ci ne contrôle plus depuis des estimations que 13% du territoire syrien. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a qualifié aujourd'hui Israël de tumeur cancéreuse en prônant la libération totale de la Palestine lors d'une conférence internationale de soutien aux Palestiniens organisée à Téhéran. Ce discours, retransmis en direct par la télévision, intervient alors que le nouveau président américain Donald Trump a opté pour une position dure à l'égard de Téhéran. L'Iran soutient les groupes islamistes palestiniens et le Hezbollah libanais, ennemi farouche d'Israël. Donald Trump a choisi Herbert Raymond McMaster, un général en exercice, vétéran d'Irak et d'Afghanistan, pour occuper le poste de conseiller à la sécurité nationale. Après une difficile recherche qui a tenu Washington en haleine, le président américain a annoncé cette nomination lundi devant les journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, espérant mettre un terme à un feuilleton qui a vu la démission de son premier choix, Michael Flynn, et le refus de son second, Robert Howard. Et puis au moins 3 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'attaque d'un tribunal du nord-ouest du Pakistan, dont 2 kamikazes, en tentant de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. 19 personnes ont été blessées. La chasse au 3e kamikaze est en cours, a déclaré à l'AFP le chef de la police du district. Les forces de sécurité pakistanaises sont en état d'alerte depuis plus une série d'attentats suicides la semaine dernière dans le pays, dont le plus meurtrier a fait au moins 88 morts jeudi soir dans un sanctuaire soufi à Sewan, une ville du sud du Pakistan. Jean-Roger Billon, ce journal est terminé. Le prochain, c'est dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.